J'espère que vous avez déjà senti le travail du Saint-Esprit. Parce que quand on se connecte, puis on pense aux paroles qu'on chante, le Seigneur fait déjà une œuvre dans nos cœurs. Déjà, il a semé un petit quelque chose qui va nous amener à grandir encore plus. Oui, il n'y a pas juste le beat là-dedans. C'est sûr que le beat, c'est agréable d'avoir du beat, mais on vient pas pour du beat, on vient pour le message, ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit parle à travers les chants, à travers le message, puis il veut nous équiper. Parce que selon ce qu'on a vu la semaine passée, l'heure est grave. Il y a des milliards d'individus, pour mettre ça plus précis, des personnes, des êtres vivants, des humains comme vous et moi qui s'en vont dans l'étang de feu pour l'éternité. L'heure est grave. C'est pas des farces. Si on est averti de ces choses, c'est dans le but qu'on puisse réaliser puis dire, hey, c'est grave. Il y a des milliards de personnes qui s'en vont dans l'étang de feu puis ils pourront pas rentrer dans la vie éternelle. Puis il est important que le message de Jésus soit répandu au plus tôt. Le titre du message, c'est « La moisson des âmes, part 2 », deuxième partie. Le Seigneur veut que chaque disciple se sente concerné par l'appel à aller évangéliser. On a parlé un peu la semaine passée, Dieu, il veut développer notre sensibilité pour nous sortir peut-être de notre engourdissement, peut-être de notre paralysie. Peut-être de notre indifférence. Dieu veut nous sortir de notre paralysie, de notre indifférence, de notre engourdissement. Ce qui nous a tenus captifs, assis sur une chaise, puis on n'ose pas ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Le Seigneur veut qu'on se sente concerné par l'appel d'aller évangéliser. Il cherche des gens qui veulent y aller porter la bonne nouvelle. Une fois qu'on est sauvé, il faut pas se le cacher. Dieu y a un plan, on l'a vu dans le verset qui présidait les chants. Dieu y a un plan, c'était qu'on puisse servir à glorifier son nom, puis ça c'est facile, puis c'est le fun d'être assis dans l'église, puis de louer Dieu de tout notre cœur en chantant les chants. Puis c'est ce que les disciples ont fait suite à la quand que Jésus est parti. Il était dans le temple priant et louant et bénissant Dieu. Ça, c'est la partie la plus facile de la vie chrétienne. Mais l'autre partie que les disciples ont aussi accomplie, puis que c'est quelque chose que Dieu nous appelle, c'est aller porter la bonne nouvelle, puis que le Seigneur va nous accompagner dans notre mission à aller parler de Jésus. Puis le Seigneur va être avec nous à chaque moment, puis il va nous accompagner, puis il va confirmer ce qu'on est en train de dire par des signes, des prodiges, des miracles. C'est ça le travail de l'Église aujourd'hui. Fait qu'une fois qu'on est sauvés, nous sommes devenus une race élue. Dieu a fait de nous une nouvelle race. Elle n'existait pas sur la terre. Il y avait juste quelques personnes qui faisaient partie de la race des élus. Puis maintenant, nous sommes la race des élus. Je vous demande, quelle race que vous êtes? Mais vous faites partie de la race des élus, ceux qui ont reçu Jésus-Christ pour leur sauveur personnel. On a été choisis par Dieu pour comprendre le message, puis de répondre oui, puis on s'est engagé à le suivre. Le Seigneur nous a sortis des ténèbres, du royaume de Satan, qu'on était pogné jusque par-dessus la tête, puis il nous a sortis du royaume des ténèbres, puis il nous a emmenés dans le royaume de Dieu. Il nous a changé de royaume à notre conversion. Puis là, on est devenu une nouvelle race, une race d'élus. Puis le verset qui nous parle de ce passage-là, qu'on est une race d'élus, ça fait de nous des proclamateurs de la parole de Dieu. Quand on parle de proclamer, c'est d'annoncer, de parler, de publier, de répandre. Faut que le message se répandre, frères et sœurs, parce que c'est grave là, alors qu'on est rendu. 1 Pierre 2,9 nous parle de ce que je vous dis là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu a payé ce que ça coûtait pour qu'on soit acheté. Il a payé la dette de nos péchés par son sang. Là, on est rendu un peuple acquis, Mais ça nous dit « afin ». Là, on a une tâche, on a un rôle à jouer sur cette terre. Je vous le cacherai pas. Il faut en parler. Il faut en parler premièrement dans l'Église pour que l'Église, après, y aille en parler. On est un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On était acquis, rachetés, puis maintenant on est le peuple élu, une race élue, dans le but d'aller annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, dans le but d'aller annoncer Dieu, leur parler de Dieu, puis leur parler de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les bénédictions de Dieu, la présence de Dieu, tout ce que Dieu peut nous donner, c'est ses vertus. Fait qu'on était sauvés afin d'annoncer les vertus de Dieu. Comment Dieu est bon, comment Dieu est grand. Vous êtes, chacun de vous, un élu de Dieu, dans le but que vous allez parler aux autres puis dire, Dieu il est bon. Il est venu me chercher dans la drogue. Il est venu me chercher dans la boisson. J'étais à poignée, j'étais plus capable d'en sortir. Ma vie était une ruine. J'étais dans la débauche, dans la prostitution. J'étais dans le péché lié par le dégriffe du diable. Puis j'étais perdu. Je m'en allais dans les temps de feu pour l'éternité. Jésus-Christ a intervenu dans ma vie. Il s'est révélé, puis maintenant, je l'ai reçu. Ma vie a commencé à changer. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je suis sauvé. Je m'en vais dans la vie éternelle.
Amen.
Gloire à Dieu. Puis là, on est appelé de parler de ce que Dieu a fait dans notre vie. On a été sauvé afin qu'on annonce les vertus. Quand Jésus a fait un appel à la prière, là, pour que Dieu donne une ouverture dans la moisson. Hein, Jésus n'a fait un appel à la prière, j'en ai parlé la semaine passée un petit peu. Pour que Dieu ouvre une ouverture dans la moisson, il était nécessaire que nous, on prie le maître d'envoyer d'autres ouvriers dans la moisson. Jésus a mis entre nos mains, c'est sûr, c'est encore dans ses mains, mais il nous a donné une part de cette responsabilité-là, de prier pour l'ouverture de la moisson, puis que Dieu envoie d'autres ouvriers dans la moisson. Pour que la moisson puisse se faire, ça prend des équipiers, des gens qui veulent aller porter la bonne nouvelle. Amen. Dans Luc 10, le verset 2 et 3, je vais vous le lire. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Fait qu'on a compris qu'il fallait commencer à prier pour l'évangélisation. On prie que Dieu ouvre des portes, on prie que Dieu il envoie d'autres ouvriers, on veut que notre pays soit béni. Dieu veut sauver notre pays, fait qu'il va envoyer des ouvriers à grandeur du pays pour sauver notre pays. Mais ce qu'on oublie souvent, juste l'autre verset après, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Verset 3. Partez. Voici, je vous envoie. Il dit, priez puis qu'on envoie. Puis là, il nous dit à nous, allez. Partez. Je vous envoie. Vous êtes les premiers à partir, à décoller dans l'œuvre. On fait pas juste prier, Seigneur, envoyez-en d'autres. C'est facile. Mais là, il me dit, vas-y. Ah, ben moi aussi, il faut que j'y aille. C'est pas le rôle juste des pasteurs de parler de Jésus. C'est pas le rôle juste des évangélistes. C'est pas le rôle juste des prophètes, ni des apôtres. C'est pas juste le rôle de quelques-uns. C'est le rôle de l'ensemble de l'Église. On est la race élue. L'ensemble de l'Église est la race élue afin qu'on annonce les vertus, afin qu'on parle de Jésus. Puis là, il nous dit, partez, voici, je vous envoie. Il veut qu'on y aille évangéliser. Il veut qu'on y aille parler de Jésus. Il veut qu'on annonce ce que Dieu a fait. Quand on a vu dans le chant tantôt, le chant, ça disait à propos de travailler. C'est quoi le... Comment vous le sortez? Bougez pas. Alors, je ne trouve pas de suite sur le coup, là. Bon. La phrase que je vous ai dit de vous encourager les uns les autres, là, ça nous disait de travailler, puis que là, tu vas te renforcer. C'est une affaire semblable à ça. Si on est paralysé, puis on est assis, puis on bouge pas, on reste encore plus paralysé. Même physiquement, on a l'inactivité quand on reste assis, on paralyse, on vient qu'on a mal partout, qu'on a de la misère dans les articulations, l'humidité nous poigne. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si on travaille pas dans l'œuvre, on paralyse spirituellement. Puis là, après ça, on regarde les bébites, puis là, on cherche des bébites. On a juste des bébites dans notre vie, des idées qui sont pas de Dieu. Dieu veut qu'on apprenne à s'investir, à travailler, à ouvrir une porte, à prier, à évangéliser. Quand tu es dans ton activité, premièrement, tu vas être heureux dans ton activité. Deuxièmement, tu vas être en train de faire ce que Dieu t'a appelé. Jésus, il a appelé puis a envoyé ses disciples dans une évangélisation systématique. Ça veut dire quoi, ça, systématique? Ça veut dire, tu commences à évangéliser ici, là, puis tout le long que tu vas avancer dans ta vie, tu rentres dans une ville, par exemple, puis tu commences à parler avec ceux que tu rencontres. Tu vas dans un parc, dans les rues, tu vas dans du porte-à-porte. Puis là, tu passes à travers de cette ville-là, puis après ça, tu t'en vas dans une autre ville. Ça, c'est systématique. D'une manière, tu commences, puis tu passes à travers. Jésus a envoyé ses disciples prêcher à toute la création, à toute créature. Il veut qu'on atteigne tout le monde. Puis regardez bien le sens de ce passage-là dans Luc 10, le verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il y avait les 12 qui évangélisaient. Puis là, il manque d'ouvriers. Il en a désigné 70 autres qui sont partis aller évangéliser. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. 70 personnes, deux par deux, tu prends chacune ville, tu as tout de suite 35 villes atteintes. Combien de temps que ça prend pour passer à travers d'une ville puis d'évangéliser tout le monde? Puis le but est, Jésus envoie ses disciples partout où lui devrait aller, ou partout où lui voudrait aller. Il envoie ses disciples partout où lui-même irait. Ça veut dire que quand que Dieu nous a envoyé ici à Beauharnois, c'est parce que Dieu a l'intention de venir visiter Beauharnois.
Amen.
Si vous restez à Havelock, c'est parce que Dieu a l'intention de visiter Havelock ou Hemingford, Mercier, Châteauguay. Si vous restez à l'endroit où ce que vous êtes, il a envoyé ses disciples à l'endroit où ce que lui-même devait aller. Nous sommes ses disciples, nous sommes rendus ici. Ça veut dire que Dieu a l'intention de visiter l'endroit où ce que vous habitez. Amen.
Amen.
Puis il veut qu'on fasse une évangélisation systématique. Souvent, là, on trie. Ah, lui, il a trop de boutons dans la face, je ne parlerai pas de Jésus. L'autre, il a trop des grosses oreilles, il a de l'air fou. Il parle pas ma langue. On se trouve plein d'excuses là pour trier le monde, puis faire « Ah, lui, je vais y en parler, il a de l'air d'un bon gars. » C'est pas de même ça marche. Pensez-vous que ceux qui nous ont évangélisés, ils ont agi comme ça? Sinon, ils nous auraient même pas parlé. On n'est pas mieux qu'un autre. Mais il y a quelqu'un quelque part qui nous a parlé de Jésus. Il n'a pas été gêné de nos défauts. Puis c'est pas des défauts qu'il faut regarder. On parle de Jésus à tous ceux que ça l'intéresse. C'est ça que Jésus a envoyé ses disciples dans toutes les villes où ce qu'il devait aller, parler de moi. Jésus va débarquer après ça, puis il va faire son œuvre. Il faut écouter notre cœur et nos pensées parce qu'il y a souvent des faux obstacles pour nous donner une raison de pas aller évangéliser. Des oui, mais. Le Seigneur nous dit, va évangéliser. Oui, mais, j'y irai bien, mais. Puis là, on se trouve un paquet de raisons pour pas parler de Jésus. On va en regarder quelques-uns. Dans Luc 9, le verset 59 et 60. Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Puis il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, puis toi, va annoncer le royaume de Dieu. Fait que les excuses qu'on peut se donner quand on parle d'enterrer son père, ça veut dire qu'ils sont, ça veut pas dire qu'il était décédé dans la pensée de ce temps-là, ça veut dire qu'il était vieux, son père. Il a besoin de lui pour pouvoir, tu sais, quand tu vas honorer ton père et ta mère, tu prends soin de ton père et ta mère, tu aides ton père et ta mère. Mais à un moment donné, quand tu penses rien qu'à ton père et à ta mère, puis t'es plus dans l'œuvre de Dieu, il y a un problème. Puis là, il dit, laisse faire, laisse les morts ensevelir les morts, puis toi, va annoncer le royaume de Dieu. Suite en partant, ça vient de sortir, nous sortir de la raison. Faut que je m'occupe de ma famille. J'ai pas le temps d'aller évangéliser. Ça, c'est une raison qu'on peut se donner. Je reçois ma famille tous les jours, toutes les semaines. Je m'occupe de beaucoup de choses dans ma maison puis de ma famille, mais j'ai pas le temps d'aller parler de Jésus. Jésus dit, laisse ça aux autres. Va annoncer le royaume de Dieu. Il y en a un autre qui est arrivé à Jésus. Oui, je vais y aller, mais Seigneur, attends, j'ai quelque chose d'autre à faire avant. Dans Luc 9, 61-62. C'est toujours un des versets juste pour nous parler qu'on peut avoir des excuses. On aimerait bien, on dit oui, on aimerait bien, mais j'ai des excuses, j'ai des bonnes raisons de pas y aller. Je te suivrai, Seigneur, que la personne disait, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mettre la main à la charrue, là, c'est d'accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu t'es dit, moi, je veux suivre Jésus. Tu as mis la main à la charrue. Faut pas que tu passes ton temps à regarder en arrière toutes les affaires que tu vas perdre ou que tu veux. Faudrait que tu délaisses, comme tous nos péchés, par exemple. On a des choses dans notre vie qui nous gardent et qui nous empêchent de suivre Jésus. Faut être prête à tout abandonner cela. Faut être prête à laisser tomber peut-être des mauvaises amies, des mauvaises influences, des gens que ils sont pas à côté de toi parce qu'ils veulent entendre parler de Jésus, ils veulent être à côté de toi pour participer dans la drogue, dans la boisson, les parties de sexuelles, de fesses, comme on dirait en québécois. Des débauches, la buverie, se saouler, tout ça. Les gens, ils t'aiment bien quand tu participes au party avec eux autres. Jésus dit, laisse ça, mets ta main à la charrue, donne ta vie au Seigneur, laisse faire le reste, regarde pas en arrière. Laisse-toi pas empêcher par les choses que tu vas aimer, t'empêcher de suivre Jésus. Il y en a une autre bonne raison qu'on l'entend souvent, qui nous empêche de y aller évangéliser. La crainte ou la peur. Dans Luc 12, le verset 4 à 9, ça nous parle, Jésus est en train de dire, je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas. Craindre, là, ça envoie peur. La crainte, ça nous bloque. On a peur. Là, on a peur des personnes, on a peur de se faire frapper, on a peur de se faire rire de nous autres, on a peur de se faire tuer peut-être, parce que là, on est-tu prêt à exposer notre vie, comme l'apôtre Paul, il dit, j'ai exposé ma vie, j'ai mis ma vie devant tout le monde, puis j'ai parlé ouvertement de Jésus. L'apôtre Paul a été lapidé plusieurs fois. Savez-vous ce que c'est d'être lapidé? C'est que les personnes, là, t'es là, puis tout le monde t'entoure, puis le monde pogne pas des roches, ils prennent des roches, puis ils te garochent des roches, sur toi, sur la tête, dans la face, sur le corps, pour te tuer. Combien de fois? Trois fois qu'il a été lapidé. Il dit aussi qu'il a été fouetté. Trois fois, je pense. Il a été battu de verge 40 coups moins un. Ça, c'est des bâtons. Puis que le monde, il est là, le bourreau, puis il frappe dans le dos. 39 coups, ça y est arrivé, je pense, 5 fois de subir ça, parce que le monde voulait l'empêcher de parler de Jésus. Puis lui, il venait de manger une volée à Damas, là, puis ils l'ont laissé là, il venait de le lapider, il était ensanglanté comme mort. Ils l'ont laissé là, il était sûr qu'il était mort. Il s'est relevé. Le lendemain, ça dit, il est en train d'évangéliser encore. Il devait avoir la face enflée gros de même. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Il n'avait pas peur de la mort, l'apôtre Paul. Jésus non plus, bien entendu. Jésus a accepté d'aller mourir sur la croix pour chacun de nous. Mais il dit à ses disciples, Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Il dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte, même si tu te feras tuer. C'est rien de te faire tuer. Ils ne peuvent pas rien faire de plus que de te tuer. Jésus dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne. » La Géhenne, c'est l'étang de feu, l'étang ardent de feu et de soufre, ce que le monde appelle l'enfer. Le lac de feu, le feu éternel, c'est tous des synonymes qui sont écrits dans le Nouveau Testament. Il y a plein de versets qui parlent de ça, des dizaines de versets qui parlent de ce lieu de souffrance éternelle, où ce que des pleurs, des grincements de dents, jour et nuit au siècle des siècles, où ce que les gens sont dans les ténèbres, où ce qu'il n'y a plus de lumière, il fait noir pour l'éternité, ils ne verront point la vie, le ver ne meurt point, où ce que le feu ne s'éteint point. C'est Jésus qui parle de ce lieu de tourment-là. Puis Jésus n'a parlé comme ça, c'était le châtiment de Satan et ses démons, mais il y a des humains qui ont suivi Satan, qui n'ont pas voulu suivre Dieu, mais ils vont être jetés au même endroit que le diable lui-même. Puis Jésus, il dit, pas craindre ceux qui peuvent tuer ton corps, mais ne peuvent rien faire. Craigne plutôt celui qui peut faire périr, après que tu sois mort, peut te faire périr en te jetant dans la Géhenne pour l'éternité. C'est la crainte de Dieu qu'on doit avoir devant nos yeux, frères et sœurs. C'est pas la crainte des humains. Les humains s'en vont tous là, puis ils ne savent pas, puis c'est notre mission de l'annoncer, de parler de ce qui se passe après la mort. Puis c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous l'annoncer, puis ça va être sur Internet, puis il y a des gens qui vont aller écouter ce message-là. Les gens doivent apprendre à craindre Dieu, parce que le jugement éternel, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit. Je vais faire une étude un jour, si Dieu le permet, puis on va en parler plus, de voir des passages où c'est écrit, puis c'est Jésus qui en parle, puis les apôtres, c'est grave. Jésus le savait parce que c'est lui qui l'a créé, l'enfer. C'est lui qui a créé toute chose. Puis il connaît ce qu'il disait, puis il nous a annoncé ces choses afin qu'on ne se ramasse pas là. Il dit, craigne celui qui a le pouvoir de jeter dans la Géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Puis là, il nous dit, ne vantons pas 5 passereaux, c'est 5 oiseaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Dieu se rappelle de tous les oiseaux, de tous les oiseaux qui ont vécu sur cette terre. Il se rappelle de tous les humains qui ont vécu sur cette terre. On pourra pas dire, j'espère qu'il me verra pas, puis que je vais passer par la porte dans l'arrière, puis je vais pouvoir rentrer par un autre chemin que par Jésus. Il n'a pas d'autre chemin pour rentrer. Jésus a dit, quiconque rentre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Puis il n'y en a pas de voleur qui rentre dans le royaume des cieux. Il faut rentrer par la porte, puis cette porte-là, c'est Jésus. Il faut rentrer par la porte, frères et sœurs. Il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dieu nous connaît, bord en bord, beaucoup plus qu'on se connaît. Qui sait combien ce qu'il y a de cheveux sur la tête? On ne sait même pas le nombre de cheveux qu'on perd à chaque jour. Dieu, il sait, puis il nous connaît entièrement. Puis il attend qu'on aille à lui, puis il dit, crains-moi. Crains-moi, je suis celui qui va faire périr après. Il dit, ne craignez donc pas. Craignez donc point, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Dieu nous aime, puis il dit, crains pas les humains qui veulent essayer de te faire peur, puis de faire de la crainte, puis là, t'oses pas parler de Jésus parce que t'as peur des humains. Jésus dit encore dans ce verset-là, au verset 8, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant les anges de Dieu. Wow! Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Un ange qui nous apparaîtra y illuminera la pièce comme un éclair. On tombera tous sur nos faces, on sera étourdis, on tombera à terre. Pensez pas que vous êtes meilleurs que les autres, les apôtres. L'apôtre Jean lui-même a tombé sur sa face. Puis un ange. Imaginez-vous des milliards d'anges devant Dieu. Puis pas juste des anges, des archanges, des chefs des anges, des chérubins, des séraphins. Il y a toutes les sortes là, qui se tiennent devant Dieu, puis ils sont devant le trône, puis nous, on va arriver. On sera pas... Non. Puis là, il va nous regarder. Viens, Daniel. Il va confesser mon nom devant les milliards d'anges. Puis il va dire, je te connais. T'as pas été gêné de parler de moi. Tu m'as confessé devant les hommes. Je te confesse aussi devant les anges de Dieu. Wow! Ça va être quelque chose de se faire dire que Jésus, il est content qu'on ait parlé de lui.
Amen.
Ça va être extraordinaire. L'autre verset, il faut tous les lire, les versets. Verset 9. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. On rentre dans l'éternité, là, dans la vie permanente. On n'est pas dans une vie permanente ici. On le sait tous qu'on va quitter ce monde. On va tous mourir. On va tous sortir de cette vie. On est juste en passage. On est venu au monde, on va mourir. Après ça, on rentre dans la vie sans fin. La vraie vie est après, pas présentement. Puis qu'est-ce que tu vas avoir fait de Jésus ici va avoir une répercussion éternelle sur ton éternité. Ça va être quelque chose, mais qu'on arrive là au bord. Puis la première chose, c'est quand qu'on va arriver, est-ce qu'il va nous dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, viens, Daniel. Tu m'as confessé devant les hommes. » T'as parlé de moi devant les hommes. T'as pas eu peur de parler de moi. Ça parle dans le contexte d'évangélisation. C'est un verset-là, c'est un contexte d'évangélisation. T'as pas été gêné, t'as pas craint les hommes. T'as parlé de Jésus, t'as confessé mon nom. Ils ont ri de toi, ils t'ont persécuté, ils t'ont donné des claques, des coups de poing, ils t'ont peut-être tué. T'as pas eu peur. T'as été de l'avant, t'as parlé de moi. Viens, bon et fidèle serviteur, puis confesse ton nom. Puis celui qui va renier Jésus sur cette terre. Oh, ben moi, parle-moi pas de Jésus, là. J'en ai entendu assez parler avec mon père qui m'achale avec ça toutes les semaines. Puis là, on se donne des idées pour dire non, 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 je veux pas de Jésus. Mais mec, on arrive l'autre bord, Jésus va dire la même chose. Moi, tout, j'ai pas le temps pour toi. Je te connais pas. Quel genre d'être que nous sommes, est-ce que nous voulons être confessés par Dieu, comme Dieu confesse notre nom, ou on veut que ça, il nous rejette, puis comme s'il nous connaît pas? Parfois aussi, lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, parce que je dois vous le dire, on n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Des fois, on entend parler de Jésus quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, puis c'est la honte qui nous anime. On a honte. Ça nous fait honte. On entend quelqu'un parler de Jésus ouvertement dans le restaurant, puis on aurait le goût de fondre puis descendre en dessous de la table. On est gêné. On a honte d'entendre parler de Jésus dans l'endroit public quand on est là. Ça, c'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que tu seras rempli du Saint-Esprit, tu seras heureux d'en entendre, puis tu diras amen, puis je vous rajoute ces choses-là, puis tu diras des affaires. Tu seras pas gêné. Mais cette honte-là, ça vient pas de Dieu, ça vient de notre corps. Puis on a cette honte-là parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Paul, lui, là, il était rempli du Saint-Esprit. C'était vraiment incroyable. Dans Romains 1, 15, 16, Paul, il dit, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car... je n'ai point honte de l'Évangile. » Paul, il n'avait pas honte de l'Évangile. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi que Paul était capable d'affirmer qu'il n'avait pas honte, puis il avait un vif désir de parler de Jésus? Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la puissance de Dieu parce que s'il l'avait pas, il serait comme tout le monde, il serait gêné, il aurait honte, puis il fondrait quand il entendrait parler de Jésus. Parce que notre corps, il aime pas ça. Il est mal à l'aise, il est gêné, il a honte. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, tu as une force qui t'anime, tu as la joie du Seigneur, tu pètes le feu, puis tu veux parler de Jésus, puis tu es content d'avoir parlé de Jésus à quelqu'un. Chaque fois que tu reviens d'avoir évangélisé, ça te remplit. Pourtant, le but, il est simple. C'est simple, parler de Jésus, là. C'est d'expliquer ce que Dieu a fait dans notre vie. Tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes de théologie et d'avoir un pan-mur couvert de diplômes parce que tu es un bac, tu as une maîtrise, tu as un doctorat, puis tu as fait 5 doctorats, puis tu as des maîtrises en divinité, puis tous les bacs que tu voudras. C'est pas, tu n'as pas besoin de tout ça pour parler de ce que Jésus t'a dit, ou ce que Jésus t'a montré, ou ce que tu as compris, ou ce que tu as vécu. C'est simple. Tu as juste besoin de dire... J'ai vu mon père prier pour quelqu'un, puis la guérison, il était guéri instantanément. C'est-tu un beau témoignage quand il y a une guérison, une délivrance? Il y avait un mauvais esprit après, puis ils ont chassé l'esprit dans le nom de Jésus, puis l'esprit est parti. Le mauvais esprit est parti. C'est un miracle. Il n'y a pas une pilule qui aura chassé le mauvais esprit. Mais ça arrive de chasser des mauvais esprits. Jésus, là, regardez bien le passage, ça, c'est quand que Jésus, il était avec le démoniaque. Le démoniaque, lui, il était possédé de mauvais esprits, ce démoniaque-là. Il y avait une légion de mauvais esprits en lui. Il y en a qui disent qu'une légion vaut 2000, et là, on va dire 1000. C'est pas grave, la quantité, c'est pas ça que je veux parler. Il était plein de mauvais esprits, ce gars-là. Tellement enragé qu'il l'attachait avec des chaînes, puis il pouvait même, il brisait les chaînes dans sa rage. Puis il criait, puis il hurlait, tellement qu'il était enragé et possédé. Puis il vivait tout nu dans un cimetière. C'était ça, son trip à ce démoniaque-là. Quand Jésus est arrivé là, le démoniaque s'est en venant courant, puis il est tombé à genoux devant Jésus. La puissance de Dieu qui était en Jésus, le démon était soumis. Puis là, Jésus a parlé, puis il a chassé ce mauvais esprit-là. Ces mauvais esprits-là. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait été délivré? Ce gars-là, il est revenu dans son bon sens, il était comme tout le monde, il criait plus, il s'est habillé, il était normal, plus enragé, il était en paix, il avait la paix de Dieu en lui, il était bien. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il voulait suivre Jésus,
aller partout où Jésus allait. C'est ce qu'on voit dans Marc 5, les versets 18 à 20. Là, il voulait embarquer dans la barque, et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il voulait rester avec Jésus. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment est-ce qu'il a eu pitié de toi. » Il n'a pas eu besoin d'aller chercher de diplôme, il a juste à aller raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Il était déjà en train de répandre la parole de Dieu, répandre les bienfaits, les vertus de notre Dieu qui nous a sortis des ténèbres et qui nous a emmenés dans son royaume de lumière. Puis là, ça nous dit au verset 20, « Il s'en alla. » Il se mit à publier dans la Décapole. La Décapole, c'est un groupe de 10 villes. Il s'y met à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Parce que tout le monde le connaissait, ce gars-là, dans cette région-là. Juste raconter ce qu'il a vécu, ce que le Seigneur a fait. T'as pas besoin d'un diplôme. Va raconter ce que Jésus a fait. Mais ça ne nous empêche pas de se préparer pour aller évangéliser. Parce qu'il faut toujours se dire, ça peut arriver n'importe quel temps dans une journée que j'ai à parler de Jésus, que j'ai à ouvrir la bouche, que je vais être amené, le Seigneur va me guider, je prie le matin, je prie dans la journée, puis là j'arrive, je vis ma journée, je rencontre du monde, J'ai prié que Dieu me rouvre des portes pour que je puisse témoigner. Puis là, il place du monde devant moi, puis je commence. J'ai une occasion là qui va s'ouvrir. Mais si je suis pas préparé à dire, faut que je sois prête. Le Seigneur, je peux évangéliser n'importe quel temps. Fait qu'il faut être prête là. Faut pas arriver, oups, je suis pas prête, j'ai pas prié, je suis pas rempli du Saint-Esprit. Puis le gars me pose des questions sur Jésus. J'aurais le goût de me cacher. C'est pas à moi que tu parles. Puis là, il faut être prête. Tous les jours, Dieu peut nous ouvrir une porte pour parler de lui. Puis ça nous dit justement, dans 1 Pierre 3,15, qu'il faut toujours se préparer et être prêt à entrer dans les portes ouvertes par le Seigneur. Dans 1 Pierre 3,15, ça dit, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Ça veut dire, tu loues le Seigneur dans ta tête, dans ton cœur, là, tu loues le Seigneur toute la journée, tu es dans la présence de Dieu. Puis là, c'est l'autre petit bout de ce verset-là qui est hot. Étant toujours prête, tu sanctifies le Seigneur, tu loues le Seigneur dans ta journée, mais tu es toujours prête à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Faut que tu sois toujours prête à répondre avec douceur et respect à quelqu'un qui vient de poser des questions sur ton salut. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt. Même si tu n'as pas eu nécessairement des diplômes, tu n'es pas obligé. Tu peux y aller, c'est correct. J'ai rien contre les diplômes. Mais attends pas des diplômes pour être prêt pour parler de Jésus. Là. Faut que tu sois toujours prêt à être capable de répondre avec douceur de ce que Jésus a fait dans ta vie. Si on manque de douceur, il faut la demander à Dieu. C'est Dieu qui donne la douceur, qui fait partie du fruit de l'Esprit. Si on manque d'amour, il faut la demander à Dieu. Il faut être capable d'aimer son prochain et dire, je veux y parler de Jésus. Je veux pas qu'il y aille dans les temps de feu, ce gars-là ou cette fille-là. Il faut que j'y parle. Pensons à nos membres de nos familles. Ils ont-ils tous entendu parler de Jésus? Comment est-ce qu'ils vont faire pour être sauvés s'ils n'entendent pas parler? Puis nos compagnons de travail, nos voisins. Jésus nous a envoyés pour qu'on... Il envoyait ses disciples 2 à 2 pour aller dans toutes les villes où ce que lui-même devait aller. On est envoyé, puis lui-même nous accompagne, puis on est rendu ici, puis c'est pour parler de Jésus autour. On n'est pas envoyé pour s'obstiner, pour mettre de la pression, se chicaner, mais de répondre avec douceur aux gens pour que les gens puissent comprendre le plan du salut. Si tu t'en vas là avec une brique, comme qu'ils disent, une brique pis un fanal, c'est une expression québécoise, tes éclairs avec le fanal, tes frappes avec la brique, puis là, la brique, ça abîme, on frappe le monde, ça amènera personne au salut. C'est pas en frappant le monde, pis en s'ostinant, pis en poignant des ostinations enragées, là, puis quasiment en arriver au point pour essayer de se battre, là, puis de dire, tu vas-tu comprendre qu'est-ce que je te dis, puis accepte Jésus. Là, non, c'est pas ça, là. 2 Timothée 2, le verset 24, nous parle justement de ce que je suis en train de vous dire, là. Or, c'est 24 à 26, il faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Des chicanes avec le monde pour lui parler de Jésus, vous allez le voir. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, c'est-à-dire de laisser passer les autres en premier, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. C'est qui les adversaires? C'est ceux qui chercheraient une occasion de s'ostiner. Parce que ceux qui écoutent, ce que tu dis, c'est pas des adversaires, ils veulent entendre. C'est ceux qui veulent pas entendre. Ceux qui sont pognés par l'ennemi, là. Les mauvais esprits sont après, puis ils savent pas. Puis là, ils s'ostinent quand tu parles de Jésus, puis ils voudraient embarquer dans la conversation, mais juste pour démolir ce que tu dis. Puis là, il dit, faut pas que tu répondes avec querelle, puis de la chicane, faut que tu répondes avec douceur, patience. Puis tu dois redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus dans leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Fait que si les gens sont adversaires, c'est parce que le diable les a capturés, puis ils sont esclaves du diable. Puis quand tu réponds avec douceur aux personnes, tu espères que Dieu va toucher son cœur pour qu'il comprenne le message. Puis que là, il va réaliser son état, puis il va demander pardon à Dieu avec repentance, puis il va demander à Dieu, puis avec l'aide de Dieu, sortir des griffes du diable qui l'a capturé. C'est par douceur, respect, patience, espérance que Dieu fasse de quoi, que tu amènes le message aux gens tout bonnement, puis t'espères que le gars va comprendre puis va dire, « Ouais, c'est vrai que je suis pécheur. C'est vrai que je suis pogné dans la drogue, je suis pogné dans l'alcool, je suis pogné dans le sexe en dehors du mariage, je couraille les jupons, ou c'est vrai que je pense rien qu'aux choses de ce monde, je veux pas servir Dieu. » Puis là, t'es pogné. Là, il va réaliser qu'il est pogné, parce qu'il répond avec douceur. Puis là, il va dire, « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, puis viens me libérer de tout cela. » Puis là, la personne va crier à Dieu avec repentance, puis il va se dégager des pièges du diable, puis il va devenir libre de servir Jésus-Christ.
Amen.
Gloire à Dieu. Il y a différentes approches pour évangéliser. Je vais faire ça rapidement. J'ai vu 4 manières qui ont été utilisées dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus. La première, c'est en profitant d'un miracle puis d'expliquer une promesse de Dieu. Admettons, tu es dans une situation, il y a un miracle qui se produit. L'exemple, c'est Pierre, lorsqu'il y a eu la Pentecôte. C'était puissant quand la Pentecôte, le Saint-Esprit a tombé comme des langues de feu, qui a tombé sur chacun de ceux qui étaient là à Pentecôte. Tout le monde s'y met à parler en langue dans la pièce. Il est aux 120 personnes dans la pièce en train de parler en langue. 120 qui parlent en langue, qui avaient l'air d'une gang de gars chauds. Ben, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ça avait fait comme un vent tellement fort qui s'était produit dans la pièce. Il était au deuxième étage d'un appartement. Que le monde qui était dehors, il y avait une fête à Jérusalem, il y avait des milliers de personnes qui étaient là, ils se sont rassemblés tout sur le bord de la porte pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là, tellement que c'était impressionnant, puis ils voyaient tout le monde parler en langue puis glorifier Dieu. Ils avaient tous été baptisés du Saint-Esprit. Pierre, il sort dehors, puis il rouvre la bouche pour leur expliquer, ils sont pas ivres comme vous le pensez. Mais c'est une promesse de Joël qui a promis que des derniers jours, on recevrait le Saint-Esprit, puis qu'il y aurait des miracles, etc. Il s'est servi de ce qu'il était en train de vivre, la situation miraculeuse, puis il a ouvert la bouche, puis il a expliqué la situation miraculeuse en donnant le verset, puis après ça, à la fin de sa conclusion, de son explication, il leur a dit de se repentir. Il leur a dit de se repentir puis d'accepter Jésus pour être sauvé. 3000 personnes s'est converties. Juste raconter le miracle qui est en train de se produire. Il n'y avait pas de diplôme en théologie. Ils ont juste ramené un passage de la Bible, du passage de Joël, qui était l'accomplissement de cette promesse-là. Fait que ça, c'est une manière de pouvoir évangéliser. Racontez les miracles que vous avez vécu ou que vous voyez à quelque part. Racontez, parlez de Jésus, de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Le deuxième modèle que j'ai vu, c'est le modèle d'Étienne. Quand Étienne s'est fait lapider, il est en train d'évangéliser. C'est à quoi qu'Étienne a fait? Il a prêché d'une manière, bien, je vais vous donner le verset, parce que tantôt dans Pierre, c'était dans Actes 2, les versets 14 à 41. Vous lirez ça chez vous. Le deuxième modèle, c'est Étienne, c'est Actes 7, de 2 à 53. Il raconte l'histoire d'Étienne, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Puis la manière qu'il s'est exprimé, Étienne, c'est un gars instruit de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Il connaissait la parole de Dieu, puis il a été qu'une évangélisation théologique. Une évangélisation académique, comme qui sera à l'école en train d'expliquer du point A jusqu'au point Z. Il a commencé à parler d'Abraham, puis là, il s'est envenu en expliquant qu'ils ont marché dans la foi, puis toute l'équipe. Tout. Là, il a expliqué ça. Ça, c'est un gars, dans le genre de gars qui va à l'école biblique, puis qui apprend tous les paquets d'affaires. Puis lui, quand il parle, mais il explique. Puis il explique de A à Z, il explique. Puis à la fin de son explication, on lui a dit, vous êtes tous dans le péché. Là, ils se sont tous bouchés les oreilles, puis là, ils ont lapidé Étienne. Je dis pas que c'est la moins bon comme pour évangéliser. C'est bon d'évangéliser. Mais avec la méthode académique, je t'explique j'ai compris que la Bible elle a dit ça par rapport à ça, puis ça t'explique les affaires. C'est une manière. Chacun choisit sa manière pour évangéliser, selon le moment où ce que t'es. Une autre manière, c'est en racontant tout simplement son témoignage, ses expériences avec le Seigneur. Les gens, ils peuvent pas contredire votre vécu. Si vous avez vécu des choses avec le Seigneur, les gens peuvent pas dire « ça vous est pas arrivé, ça vous arrive ». Si tu dis que depuis que j'ai donné ma vie, j'ai été délivré de la drogue, mais si tu l'as vécu et tu le racontes, ils peuvent pas dire le contraire. Ou si tu dis « je vis dans la paix de Dieu, je suis béni, je suis en présence de Dieu, je suis heureux de servir Dieu, ma vie a changé ». Mais tu racontes ton témoignage. On voit ça avec Paul dans Actes 26, les versets 2 à 29. Vous lirez ça. Paul, il est en train d'évangéliser, puis il expliquait son témoignage. Comment est-ce que Jésus était le chercher? Il expliquait qu'il s'en allait sur le chemin de Damas pour aller persécuter d'autres chrétiens. Il ne croyait pas en Jésus. Il voulait tuer les chrétiens. Il voulait détruire l'œuvre de Dieu. En s'en allant, Jésus lui a apparu. Il a vu une lumière, puis Jésus lui a parlé, il a tombé à terre, puis là, il est devenu aveugle, puis là, il a compris que Jésus lui a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Puis là, il dit, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Il dit, « Tu vas t'en aller à telle ville, puis là, il y en a un qui va aller te voir, puis il va t'annoncer les paroles, puis il va prier pour toi. » Il a été, puis il s'est converti au Seigneur, il a été baptisé d'eau, il s'est engagé à suivre Jésus, puis c'est son témoignage qu'il est en train de raconter aux autres pour évangéliser. Tu racontes ce que Jésus a fait dans ta vie. Fait que tu peux raconter des miracles qui arrivent dans une situation, à l'église ou ailleurs. Tu peux raconter en expliquant ce que tu as compris de la Bible, du point A jusqu'au point Z. Tu peux témoigner en racontant tes expériences, ton vécu. Puis la dernière chose que j'ai vue, c'est l'évangélisation par une méthode, là, comme j'ai dit tantôt, systématique. Évangéliser par tout ce que tu passes. Dans Actes 8, 3 à 6, ça nous parle de Saül, qui est il n'était pas converti encore. Il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, il arrachait les hommes et les femmes, il faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Puis ça a créé une persécution assez forte que tout le monde a fui Jérusalem. Là, il s'en allait de lieu en lieu. Tout le monde s'en allait partout ce qui passait. Puis ça dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Fait que le monde était à Jérusalem. Tout le monde t'a béni d'être dans la belle église de Jérusalem. Puis là, il est arrivé une persécution avec Paul. Puis là, tout le monde a fui. Puis quand le monde est en train de partir, mais il évangélisait partout en s'en allant, partout ce qui passait. Évangélisation systématique. Tu passes, puis tu rases la ville. Tu évangélises, là, tu passes à travers de la ville où tu habites. Puis ça nous dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Évangélisation accompagné de la présence de Dieu. C'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs. Que Dieu, dans le verset que je vous ai lu au début, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, puis il s'assit à la droite de Dieu, puis ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fait que Jésus accompagnait ses disciples dans l'évangélisation, mais Ça nous dit que Philippe aussi est accompagné parce qu'il se passait des miracles incroyables partout ce qui passait. Puis des foules entières venaient pour entendre. Fait que l'évangélisation de A à Z des foules, accompagnée de la présence de Dieu qui touche les cœurs, puis que Dieu exauce des prières, puis que des gens guéris, des gens délivrés. On doit aspirer à ce que Dieu accompagne notre évangélisation, qu'il nous utilise, mais qu'il soit avec nous, qu'il nous remplisse. Puis c'est pas juste pour un évangéliste, c'est tout le monde qui peut vivre. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. On croit-tu? Oui, on croit. On est les croyants, on est la race élue dans le but d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Dernier verset. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui est prêt à aller au front? Amen.
Amen.
J'en veux d'autres mains qui se lèvent. Qui est prêt à aller au front et de parler de Jésus à tous ceux qui nous entourent? Que Jésus va faire des signes, des prodiges, des miracles, va nous accompagner. Dans Isaïe, le chapitre 6, le verset 8, c'est le dernier verset, ça nous dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Isaïe a répondu à l'appel de Dieu, puis Dieu fait encore la même appel aujourd'hui. Dieu fait encore la même appel aujourd'hui. Qui est prêt à confesser le nom de Jésus publiquement afin d'être confessé devant les anges de Dieu? Jésus dit, qui enverrai-je? Qui est prêt à aller au-devant du peuple pour leur parler des vertus de Dieu? Mais il dit, Dieu, il charge du monde. Et si vous avez dans votre cœur, vous êtes prêt à y aller, vous avez premièrement besoin de vous enrôler, d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, de le recevoir premièrement pour recevoir le pardon, puis en plus d'être équipé par le Saint-Esprit, parce que vous avez besoin de Dieu dans votre vie pour accomplir cette grande mission-là. Je vais faire une prière pour donner l'occasion à ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis perdu. Mais je sais que Jésus est venu voilà 2000 ans, qui est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu pardonne tes péchés. Tu as une vie nouvelle qui vient de commencer. Maintenant, Dieu te demande, parle de moi. Annonce la parole de Dieu. Va proclamer la parole à tous ceux que tu rencontres. Dieu se charge des gens qui sont prêts à se lever pour aller annoncer le message. On va faire une prière ensemble pour demander à Dieu de nous guider, d'ouvrir des portes, de nous utiliser pour qu'on puisse travailler à sauver les âmes qui nous entourent. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui nous a enseigné d'aller évangéliser. Je te remercie, Seigneur, pour ta révélation, pour nous faire comprendre comment c'est facile d'aller parler de toi en expliquant et en annonçant ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Seigneur, je te demande de nous pardonner pour notre manque de zèle à vouloir aller évangéliser. Je te demande de nous pardonner et de nous remplir de ton Saint-Esprit, puis de nous envoyer. Nous voulons y aller, Seigneur, travailler dans ta grande moisson jusqu'au jour où tu vas venir nous chercher. Puis merci, Seigneur, des portes que tu vas ouvrir. Puis donne-nous de parler avec assurance dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.